Voici votre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité vue par les médias francophones publics. Voici donc l'accent des autres, comme chaque semaine. C'est avec Radio-Canada, RFI, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. Et nous allons une fois de plus revenir aujourd'hui sur la situation en Ukraine avec d'abord cet appel à l'aide du président ukrainien aux Canadiens, Nadim Mubarak.
Oui, Volodymyr Zelensky s'est adressé aux élus, aux sénateurs et à la diaspora ukrainienne du Canada mardi par visioconférence.
En Suisse, Pierre-Henri Chauffat, des voix s'élèvent pour réclamer davantage de moyens pour l'armée face à la menace incarnée par la Russie de Vladimir Poutine.
Notre pays doit pouvoir défendre sa neutralité seule. La droite du Parlement en est convaincue. Elle veut donc accélérer l'acquisition d'armements, dont le très controversé F-35 américain.
Et puis la bataille ukrainienne se joue aussi sur les lignes à haute tension. Depuis cette semaine, le risque d'une panne géante d'électricité en Ukraine s'est éloigné, notamment grâce à la France, Karine Bécard.
Oui, le réseau électrique ukrainien était jusqu'ici raccordé à la Russie. Et bien depuis mercredi, il est rattaché au réseau européen grâce au RTE, entre autres, l'entreprise française de gestion du transport électrique qui y a travaillé ces deux dernières semaines d'arrache-pied.
L'actualité de la semaine, c'est aussi deux médias, deux chaînes, RFI et France 24, interdits au Mali, Nicolas Sûr.
Oui, Bamako fustige des allégations mensongères après la diffusion de témoignages sur des exactions de militaires maliens et de leurs supplétifs russes.
Enfin, en Belgique, Sophie Brems, le gouvernement fédéral a pris cette semaine de nouvelles mesures pour aider les Belges face à la hausse des prix de l'énergie.
Le gouvernement a notamment décidé de baisser la TVA sur l'électricité et le gaz, et de baisser les accises sur le diesel et l'essence. Une prime mazout a aussi été proposée. Et puis le tarif social, vous savez, pour ceux qui ont moins de moyens, il sera, lui, élargi et prolongé.
Voilà donc pour les titres. Bienvenue dans l'accent des autres. L'image était forte mardi dernier devant un Parlement canadien plein à craquer. Le président ukrainien a donc lancé par visioconférence un cri du cœur depuis son bunker en Ukraine, Nadi.
Oui, c'était un moment grave, solennel au Parlement à Ottawa. Le discours de Volodymyr Zelensky a été puissant. Il a demandé aux Canadiens de se mettre dans la peau du peuple ukrainien et de s'imaginer les bombardements dans lesquels 97 enfants sont morts, de s'imaginer aussi la tour du CN à Toronto pulvérisée ou encore la ville de Vancouver assiégée. Il a aussi demandé aux membres de la diaspora ukrainienne au Canada, qui est la deuxième en importance au monde après la Russie, d'offrir un soutien concret à leur patrie d'origine. Volodymyr Zelensky a aussi interpellé le gouvernement canadien en lui demandant de créer une zone d'exclusion aérienne pour que cessent les bombardements. Volodymyr Zelensky demande combien de bombardements faudra-t-il encore avant que des mesures soient prises.
Alors comment a réagi le gouvernement canadien à ce vibrant plaidoyer ?
Alors le président a été ovationné pendant près de 3 minutes au terme de son discours. Le premier ministre Justin Trudeau a parlé de Volodymyr Zelensky comme un dirigeant courageux et exceptionnel, un champion de la démocratie qui inspire tous les Canadiens. Mais pas question d'acquiescer à sa demande pour ce qui est de la zone d'exclusion aérienne. Il a assuré cependant que le Canada continuera d'être présent aux côtés de l'Ukraine.
Le Canada va continuer de soutenir l'Ukraine en lui fournissant de l'équipement militaire ainsi que de l'aide financière et humanitaire.
Justin Trudeau a aussi annoncé que de nouvelles sanctions seront imposées à 15 hauts responsables russes qui ont soutenu la décision du président Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine.
Oui, et puis la réplique du Kremlin n'a pas tardé, Nadi.
Absolument. Moscou interdit l'entrée en Russie à Justin Trudeau, ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, et presque tous les députés aux communes qui sont dorénavant considérés persona non grata en Russie.
Le Parlement suisse, de son côté, a mené des débats urgents cette semaine à propos de la guerre en Ukraine. Et Pierre-Han, à droite de l'échiquier, on a mis en avant la nécessité de renforcer l'armée.
Il faut dire qu'après quelques votations difficiles, dont une très très courte victoire sur l'acquisition d'un nouvel avion de combat, les militaires et leurs partisans faisaient plutôt profil bas. Le retour d'une guerre conventionnelle en Europe change évidemment la donne. Il ne suffit plus de parler de la menace des cyberattaques. L'élu de l'UDC, Jean-Luc Ador, l'a martelé à la tribune du Conseil national.
Oubliant les leçons de l'histoire, nous avons donc cessé de considérer la sécurité militaire comme une priorité et considérer comme secondaire les missions de notre armée de défense. Il est temps pour nous déjà de nous réveiller et de faire à nouveau de notre sécurité une priorité.
Et cette sécurité passe notamment par l'acquisition rapide du F-35, avion de chasse encore combattu par une initiative populaire. Fait rarissime, la ministre de la Défense elle-même avait d'ailleurs demandé à la gauche de retirer ce texte au lendemain de l'invasion de l'Ukraine.
Et on l'imagine, Pierre-Han, les adversaires de l'avion américain n'ont pas cédé.
Effectivement, ils poursuivent la récolte des 100 000 signatures nécessaires, car pour eux, la crise actuelle ne justifie pas d'accélérer la procédure et d'empêcher la population de s'exprimer à nouveau sur cet appareil controversé. Le fait que notre grand voisin allemand veuille à son tour s'en équiper dans l'effort d'armement voulu par le gouvernement Scholz, eh bien cela n'y change rien, selon l'écologiste Fabien Fiva.
L'Allemagne, en cas de conflit ouvert entre l'OTAN et la Russie, doit pas seulement défendre son territoire, mais doit aller attaquer la Russie directement avec ses avions. Ce n'est pas le cas de l'armée suisse. Les missions de l'armée suisse sont avant tout la police du ciel. Et dans ce sens-là, le F-35 ne sert à rien. Le F-35, c'est un avion de chasse, bombardier, furtif, fait pour attaquer les lignes ennemies. Et en Suisse, on n'est jamais dans ce cas de figure.
Le seul point qui semble faire l'unanimité à ce stade, c'est l'acquisition urgente d'un système de défense sol-air pour se prémunir contre de potentielles frappes de missiles.
Autre conséquence de cette guerre, depuis quelques jours maintenant, les réseaux électriques ukrainiens et moldaves sont raccordés au réseau européen. Ils étaient jusqu'ici raccordés à la Russie. En fait, le projet de connecter l'Ukraine à l'Europe n'est pas neuf, mais il n'avait pas avancé ces dernières années. Et l'invasion de l'Ukraine a tout accéléré. Le 27 février, les ministres européens de l'énergie ont donné leur feu vert. Et trois semaines plus tard, les gestionnaires d'électricité de 35 pays, et notamment RTE, le réseau de transport d'électricité en France, ont travaillé d'arrache-pied avec un objectif, que l'Ukraine ne se retrouve pas plongée dans le noir. Delphine Simon.
Depuis trois semaines, une quinzaine de salariés du gestionnaire d'électricité RTE travaillent sans relâche avec leurs collègues ukrainiens. Objectif, raccorder les lignes à haute tension ukrainienne au réseau européen. Défi technique, explique Jean-Paul Roubin, chargé de l'exploitation chez RTE.
La connexion d'un pays nouveau, un système électrique, ça prend plusieurs années. Et là, on avait l'urgence. Des lignes ont été détruites par des bombardements.
Car le risque, c'est une panne d'électricité générale. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les lignes sont coupées avec la Russie. L'Ukraine fonctionne en mode isolé. En cas de bombardement, impossible de garantir l'alimentation en électricité du pays.
Nos collègues ukrainiens, tous les matins, repartaient sur le terrain pour reconstruire ce qu'ils pouvaient et qui avait été détruit par les bombardements la veille ou l'avant-veille, qui ont été obligés d'évacuer leur centre de contrôle.
Dans un premier temps, il s'agit de sécuriser l'approvisionnement de l'Ukraine. En cas de besoin, l'Europe pourra fournir du courant.
C'est toutes les centrales de production, qu'elles soient nucléaires, hydrauliques, au gaz, françaises et européennes connectées sur ce système électrique, qui agiront de manière synchrone pour aider le système électrique ukrainien s'il en a besoin.
Un raccordement électrique, comme il en existe déjà plusieurs, entre l'Europe et la Turquie notamment, il ne préjuge en rien d'un accord politique, rappelle RTE.
Delphine Simon pour France Inter.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Le reste de l'actualité, c'est aussi ce silence sur les antennes maliennes de RFI, Radio France Internationale. Écran noir aussi sur le canal de France 24. La diffusion des deux médias est donc coupée sur ordre du gouvernement de transition au Mali. Ce gouvernement s'en prend en fait à ces médias avec virulence suite à la diffusion de témoignages liés, Nicolas, à des exactions de soldats maliens contre des civils.
Depuis la fin décembre et l'arrivée de supplétifs russes, des mercenaires du groupe Wagner selon de nombreux pays occidentaux, des instructeurs invités dans le cadre d'une coopération d'État à État selon Bamako, l'armée malienne multiplie les opérations antiterroristes et annonce des bilans impressionnants. Mais dans les milieux sécuritaires, dans les organisations communautaires et parmi les analystes, nombreux sont ceux qui jugent ces bilans très exagérés et dénonce des exactions sur des civils. RFI a retrouvé une dizaine de victimes directes de ces exactions et a recueilli leurs témoignages sur les sévices infligés par l'armée malienne, avec, dans certains cas, l'implication de combattants russes. Ces crimes sont également documentés par Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme dit avoir recensé 71 cas d'exécution extrajudiciaire dans le centre du Mali. Allégations mensongères et complots, répond Bamako, qui a donc interdit jeudi la diffusion de RFI et de France 24, très suivie dans le pays.
Votre média, Nicolas, est donc concerné. C'est une annonce qui a provoqué une levée de boucliers.
Oui, parmi les organisations de défense de la presse en Afrique de l'Ouest, pour l'Union européenne qui dénonce une décision inacceptable, pour la France, dont l'ambassadeur a déjà été expulsé fin janvier et qui parle d'une course en avant vers le pire, il est de plus en plus difficile d'informer au Mali. Depuis le début de l'année, un envoyé spécial du magazine Jeune Afrique a été expulsé, tandis que la mise en place d'un nouveau système d'accréditation empêche tout journaliste étranger indépendant de venir travailler dans le pays.
Nicolas Sûr donc pour RFI. Enfin, en Belgique, Sophie, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour soulager un peu, théoriquement, la facture des Belges sur le plan énergétique.
Oui, des mesures de soutien censées alléger cette facture annuelle des ménages. Concrètement, on passe de 21 à 6 % de TVA sur le gaz et l'électricité jusqu'en septembre. On baisse aussi les accises sur l'essence et le diesel. Et puis, une réduction de 200 euros pour ceux qui se chauffent au mazout est également prévue. Enfin, le tarif social, qui protège déjà 2 millions de Belges, sera également prolongé jusqu'en septembre. Une nouvelle palette de mesures, donc, après une enveloppe déjà débloquée le mois dernier. Pour le Premier ministre, c'est donc inédit.
Du point de vue du gouvernement, on fait un effort qui est du jamais vu. C'est au total 3 milliards qu'on fait cette année-ci, mais c'est normal parce que nous, comme Belges, on est vraiment confrontés à quelque chose qu'on n'a jamais vu.
Du jamais vu donc pour le gouvernement, même si ces dépenses, il faut le préciser, c'est en bonne partie une redistribution de ce qui avait été engrangé par les autorités grâce à la hausse des prix de l'énergie. Cela dit, pour l'opposition comme pour les syndicats, ces mesures sont loin d'être suffisantes.
Ce sont complètement des mesurettes, parce qu'on voit 6% sur le gaz, il y a déjà pour l'électricité qui avait déjà prise, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps.
Avec un salaire d'ouvrier, ça va être difficile de s'en sortir. Alors, ben, qu'est-ce qu'on va perdre dans tout ça? Tous les extras qu'on pouvait avoir à vacances? Non, je pense qu'il faut vraiment agir et rien à faire.
Les syndicats qui se mobilisent donc, les mesures ne vont pas assez loin pour eux. Certains économistes disent aussi que ça va retarder l'indexation des salaires et donc que ça ne va pas produire les effets escomptés. Sans oublier que la baisse de la TVA intervient pendant les 6 mois les plus chauds de l'année, des mois pendant lesquels on utilise nettement moins d'énergie pour se chauffer.
On notera enfin que des mesures ont été annoncées également ailleurs, en France et puis en Suisse, Pierran, où les prix à la pompe ont aussi explosé pour dépasser allègrement les 2 francs le litre.
Et chez nous aussi, les politiques s'en emparent. La majorité bourgeoise du Parlement a déposé plusieurs motions pour faire baisser le prix de l'essence. L'idée principale consiste à réduire la taxe sur le carburant pour compenser la hausse du baril. Cela aurait un effet arrosoir, prévient la gauche, qui, comme les écologistes, préférerait une mesure ciblée sur les habitants des régions périphériques contraints de se déplacer en voiture.
Merci Pierre Anchoffa et merci à tous ceux qui ont participé à l'Accent des autres, l'actualité de la semaine vue par Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Les médias francophones publics et l'Accent des autres reviennent bien sûr dans 8 jours. Excellente fin de semaine.